Et sur Radio Shalom, nous a rejoint dans les studios François Heilbronn. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Heilbronn, vous êtes professeur associé à Sciences Po et ce soir, vous vouliez, dans un premier temps, évoquer le dernier ouvrage, le dernier essai de Bernard-Henri Lévy sur la route des hommes sans nom qui est publié chez Grasset. Alors François Heilbronn, expliquez-nous pourquoi vous avez apprécié ce dernier essai de Bernard-Henri Lévy.
Comme certains de vos éditeurs peut-être s'en rappellent, je suis un fanatique de Kessel. J'adore Kessel, je considère que c'est à la fois un très grand reporter et un très grand romancier. Et en lisant le dernier essai de Bernard-Henri Lévy sur la route des hommes sans nom, j'ai retrouvé le Kessel que j'aime. Et d'ailleurs, il y a un recueil de reportages de Kessel qui s'appelait « Témoins parmi les hommes ». Et j'y vois un lien avec la route des hommes sans nom. Quel beau titre d'ailleurs, ce titre sur cette route des hommes sans nom qui, comme Kessel, Bernard-Henri Lévy trace depuis 50 ans, depuis les zones de guerre du Bangladesh en 1971, à ceux du Kurdistan, du Nigeria, de l'Ukraine, de la Somalie, de la Libye, de l'Afghanistan, mais aussi du camp insalubre aux portes de l'Europe, le camp de Lesbos, en pleine pandémie en 2020. Mais comme Kessel, il ne s'agit pas uniquement de reportages froids, calculés, éloignés, il s'agit de prendre parti, d'épauler, d'accompagner, de donner à voir ces guerres oubliées, peu explorées, ces peuples opprimés et héroïques. BHL a choisi dans sa vie, au même mépris des risques et de la mort, de nous rapporter ce qui l'indigne dans ce monde, ce qui, comme il dit si bien, est dégueulasse. Dans cet essai, qui reprend ses bouleversants reportages parus dans Paris Match l'année dernière, de ses conflits oubliés, il nous parle aussi de lui, d'où il vient et pourquoi depuis 50 ans, il refuse le confort douillet du germanopratisme de tant de commentateurs pour aller près de tous ces hommes et femmes sans nom. Il y a tout d'abord une première partie où il se dévoile avec ce que je crois. Il y a l'évocation sensible de son père André, son modèle. Ancien brigadiste international en Espagne, puis combattant héroïque de la première DFL, décoré à la meurtrière bataille de Monte Cassino. On ne vient pas de nulle part, et cette filiation du héros l'oblige. Il invoque tous ceux qui l'ont espéré, et notamment un de ses héros de la France libre, le si touchant Roger Stéphane, né Worms, et notamment son livre « Portrait de l'aventurier ». Il y a aussi le portrait très touchant de son compagnon de toujours, de tous ses combats et voyages, Gilles Herzog. Et puis il y a, très étonnant, la réhabilitation de ce grand héros que fut Don Quichotte, et BHL n'a pas peur de s'identifier à celui qui jusqu'au bout n'abandonne pas son idéal. Mais surtout, plongez-vous dans ce livre pour aller découvrir ces guerres oubliées, ces conflits de l'horreur, et c'est dans les pages où il retrace ça très, avec beaucoup de sensibilité dans ce que j'ai vu. Il nous fait découvrir l'horreur et l'ampleur des crimes des Fulani, proches de Boko Haram contre les chrétiens du Nigeria, puis il nous mène chez ces vaillants combattants de la liberté, ses frères kurdes, et entre Syrie et Irak, il nous rapporte ses portraits des combattants de la liberté, encerclés entre les Turcs, Daesh et Bachar el-Assad. Il nous emmène aussi en Ukraine, dans le Donbass, dans cet avant-poste de l'Europe contre l'impérialisme russe renaissant. Et BHL nous rappelle que cette guerre a fait 13 000 morts dans l'indifférence et que c'est une guerre pour l'Europe, que ce front est le nôtre, comme celui des Kurdes contre les dictatures Erdogan et Bachar, comme les tueurs de Daesh. Il y a aussi des pages bouleversantes où nous nous retrouvons dans un pays de non-droit, de chaos absolu, la Somalie aux mains des Chebabs, et face à eux, quelques internationaux, quelques mercenaires dont ils nous tracent le portrait de personnages sortis tout droit de Conrad, de Monfred ou de Kessel, et notamment un certain Richard Rouget, que j'avais connu au GUD il y a une quarantaine d'années, et qui depuis est un mercenaire. Il y a aussi des retours. Il retourne en Libye, dans un pays déchiré, où le Premier ministre, à la solde des Turcs, fuite les itinéraires de son parcours. BHL et son équipe échappent alors de peu à une embuscade organisée pour éliminer, comme il le raconte, le criminel sioniste. Il y a ce retour dans ce si pauvre Bangladesh qui a si peu changé depuis 50 ans. Il y a aussi le retour, près de 20 ans après, le dernier salut au commandant Massoud en Afghanistan pour y retrouver le fils du héros qui marche dans ses pas. Il y a enfin ce chapitre qui m'a arraché des larmes de honte sur cette égoïste Europe, ces pages sur le camp de réfugiés de Lesbos à l'entrée de l'Europe, ces 20 000 réfugiés qui ont fui leur pays en guerre et qui, dans la crasse, la malnutrition, la violence, attendent sans fin que les 500 millions d'Européens, repus, leur tendent la main et leur disent enfin « Entrez, asseyez-vous à notre table ». Ce livre de témoignages parmi les hommes nous sort de notre confort quotidien, nous confronte avec ce monde en souffrance, aux côtés d'une autre, si loin et si près. Il nous rappelle avec force que l'aventurier est aussi un homme qui doit tendre la main à d'autres hommes et femmes de par le monde. Il nous rappelle, surtout éclairé par son esprit du judaïsme, que chaque homme, doit tendre lors de son si bref passage terrestre vers le Tikkun Olam, la réparation du monde. Et comme Kessel, avec ses reportages publiés dans un magazine grand public, c'est au plus grand nombre qu'il veut s'adresser pour leur crier « tendez la main aux autres ». Mais il leur dit aussi « soyez lucides sur ceux qui sont aujourd'hui sont les vrais ennemis de l'humanité, les dictateurs Erdogan, Assad et Poutine, les terroristes de Daesh, des Fulani, des talibans et de tant d'autres conflits ». Merci à Bernard Olivier d'être ce témoin parmi les hommes qui sans cesse nous rappelle que ces guerres oubliées et ces hommes et femmes admirables existent parmi tous les peuples.
Alors, on va changer complètement de sujet et on va revenir avec vous sur les propos tenus à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean Castex, c'était la semaine dernière, sur le conflit opposant le Hamas à Israël et sa volte-face le lendemain au Sénat. Alors, expliquez-nous et rappelez-nous tout d'abord les faits et on va essayer de comprendre ces deux déclarations pour le moins contradictoires.
Vous avez tout à fait raison, Pierre, et même si une semaine s'est écoulée, je voulais revenir avec vous sur cet élément de l'actualité nationale qui a heurté énormément d'observateurs attentifs à ce que la France a à dire dans le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Jean Castex répondait à une question au gouvernement, donc c'est une question écrite, préparée à l'avance, qui a été posée par le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale mardi 18 mai dernier à propos du conflit opposant le Hamas à Israël. Il s'est inquiété du sort aux populations civiles, et en s'inquiétant du sort aux populations civiles, il n'a eu que cette déclaration que je vais vous lire. Nous sommes inquiets, enfin, du sort des populations civiles à Gaza, déjà éprouvées, vous le savez, par près de 15 années de blocus. Cette spirale de violence ne se limite pas à Gaza. Dans plusieurs villes israéliennes, les violences ont atteint un niveau inédit. Une fois qu'il a dit ça, on pouvait s'attendre à qu'il s'inquiète et qu'il s'émeuve avec autant de force des souffrances des populations civiles d'Israël qui, pour plus de 4 millions d'entre eux, étaient soumis depuis quelques jours à des tirs de plus de 3000 missiles à ce moment-là. Il n'en fut rien. Son indignation ne s'arrêtait qu'aux populations civiles de Gaza. Il n'y avait aucune indignation pour les populations civiles attaquées par des missiles d'une organisation terroriste, le Hamas. Pourtant, il n'improvisait pas, il lisait une fiche. Il n'avait, comme souvent avec lui, pas l'air de très bien comprendre son sujet. Mais par cette démonstration pathétique, il renouait avec les heures les plus sombres de l'unilatéralisme pro-arabe et ici pro-terroriste en n'évoquant à aucun moment les tirs de 3000 missiles de terroristes du Hamas sur les civils israéliens et renvoyant dos à dos une démocratie attaquée et un groupe islamiste terroriste aux ordres de l'Iran. C'était un retour en arrière absolument scandaleux et indigne, c'était digne de Michel Jobert, de Claude Cheysson ou de Hubert Védrine. En oubliant sciemment les tirs cherchant à tuer des milliers de civils israéliens, il omettait ce qui, en droit international, est une tentative de crime contre l'humanité. L'article 7 du statut de Rome donne la liste des crimes de droit commun qui sont des crimes contre l'humanité dès lors qu'ils sont commis sur ordre dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile. Les tirs du Hamas par des missiles sur les civils israéliens étaient donc bien constitutifs d'un crime contre l'humanité. L'oubli de ce crime était donc un silence complice de notre Premier ministre. Beaucoup s'en émurent, beaucoup alertèrent leurs amis. Le CRIF manifesta sa réprobation aussi bien au Premier ministre qu'au Président de la République. Et le mal était fait. Mais heureusement, le Président de la République, alerté de cette déclaration inique, a rappelé à son Premier ministre qu'il avait condamné les tirs du missile de l'organisation terroriste Hamas et lui a demandé de corriger sa déclaration le lendemain au Sénat. Ce que Jean Castex, le lendemain, dans une question aussi à un sénateur communiste au Sénat, fit en déclarant, je cite, « des populations israéliennes qui vivent sous la menace des roquettes. Je veux dire ici l'attachement irréductible de la France à la sécurité d'Israël. » Et la phrase la plus importante, « le Hamas a cherché à récupérer, à instrumentaliser une situation de grande tension à Jérusalem. La France condamne avec la plus grande fermeté les tirs de roquettes par le Hamas et d'autres groupes terroristes vers le territoire d'Israël. » Il a rappelé que c'était la position du président de la République, mais il était trop tard. Ce sujet, comme tant d'autres, il avait perdu toute crédibilité. Un jour, à l'Assemblée nationale, il oubliait sciemment Israël et les civils israéliens qui ont dû vivre pendant 10 jours sur des tirs de plus de 3000 missiles du Hamas. Le lendemain, il s'en rappelait au Sénat et il n'a pas changé le reste de sa déclaration qui rappelait des principes toujours assez ambigus de la France. Mais en tous les cas, sur ce point-là, le Premier ministre, comme ses conseillers, ont fait preuve de légèreté, d'aveuglement et d'unilitarisme. Heureusement, clairement, le président de la République l'a rappelé à l'ordre et c'était une bonne chose. Mais le mal a été fait et Jean Castex est décrédibilisé une fois de plus.
François Helbron, qui est professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Merci Pierre, bonsoir.